Coulisses politiques avec Henri Vernet.
Pendant longtemps, l'affaire Epstein, nous allons prononcer Epstein, certains disent Epstein. Pendant longtemps, donc, cette affaire a été racontée comme un scandale criminel, hors norme, presque abstrait. Un homme, des crimes, un réseau flou, tentaculaire, difficile à saisir. Aujourd'hui, l'affaire entre dans une autre phase. Des documents judiciaires sont rendus publics, des noms apparaissent, des personnes identifiables, connues, parfois puissantes, sont désormais associées à ce dossier. Cette publication ne dit pas qui est coupable, elle ne remplace pas la justice, mais elle produit un choc mondial et pose une question aussi, que fait-on collectivement des noms quand ils sortent avant les verdicts? Est-ce un progrès démocratique, une exigence de transparence ou le début d'une justice de l'opinion? Bonjour, je suis François-Xavier de Calonne, Coulisses politiques, une émission et un podcast disponibles sur votre radio, sur Spotify, sur radioorient.com, sur les réseaux sociaux de Radio Orient. Comme chaque semaine, nous retrouvons le journaliste et écrivain Henri Vernet. Bonjour.
Bonjour.
Henri Vernet. Tout d'abord, pour analyser ce moment charnière de cette affaire Epstein, on l'a dit.
On dit bien Einstein.
Et voilà, donc pourquoi pas Epstein. On ne dit pas Einstein. En effet, cette publication, hein, on l'a dit, fait basculer cette affaire dans une nouvelle dimension. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous dire ce qu'est cette affaire Epstein?
On parle de quoi? On parle de plus de 3,5 millions de documents, donc des mails, des SMS, des rapports de police, des fiches piochées ici et là, quelques 180 000 photos et des milliers de vidéos. Donc on voit bien que tout cela va à profusion. Qu'est-ce qu'on voit? On voit par exemple des images qui soulignent la proximité donc, de ce financier mondialiste, pourrait-on dire, dans ces années de splendeur, même si splendeur est un mot totalement décalé par rapport à l'abjection du personnage et de ses actes. Par exemple, avec un Donald Trump, on le voit dans une soirée où ils sont à tu et à toi tous les deux, donc le futur président et Jeffrey Epstein,
Trump qui a été embarrassé par cette affaire, qui a choisi de faire sortir justement tous ces documents. Vous le soulignez, il est très difficile de faire le tri. Il y a des milliers, des dizaines de milliers de noms. Cela provoque une onde de choc dans le monde. Est-ce que cela peut aussi être une stratégie de la part de Donald Trump?
Oui, on peut vraiment l'envisager. Même d'ailleurs, il y a beaucoup de signes vont en ce sens. Parce que qu'est-ce qui se passe pendant tout ce temps-là? En effet, il y a tellement de noms qui apparaissent. Et donc, comme je le disais, sur toute la planète, et dans tous les milieux, à chaque fois, encore une fois, dans les milieux d'élite. On parle vraiment des têtes couronnées, de dirigeants politiques, d'anciens ministres, bref, vraiment le haut du panier, si vous me passez l'expression.
Il est intéressant de souligner que c'est le monde occidental qui est davantage touché par cela.
Alors, c'est essentiellement le monde occidental, ouais. Oui, enfin, même si on trouve aussi des ramifications assez claires avec la Russie. J'ai parlé d'un financier, mais c'est d'abord l'organisateur, l'instigateur d'un vaste réseau de pédoprostitution, donc avec des détournements de mineurs, avec toutes les espèces de scènes, enfin orgiaques ou autres, qui étaient mises à disposition des puissants. C'était ça, le réseau Epstein. Et bien donc, on en trouve des ramifications un peu partout sur la planète, mais c'est vrai, beaucoup dans le monde occidental, comme vous dites, c'est-à-dire les États-Unis au premier chef, la France. Epstein, il avait un appartement à Paris, il était bien connu des milieux parisiens, des différents acteurs, des différents protagonistes, là encore, de la vie publique et de la vie des affaires. On trouve aussi des ramifications en Norvège.
Et ce qui est intéressant, vous parlez de toutes ces ramifications, mais il n'y a pas de preuves dans ces messages, de preuves avérées en tous les cas.
Alors c'est bien ça le problème, c'est que c'est pour ça que je parlais de ce foisonnement, c'est-à-dire ces millions de documents, il y a énormément de noms qui sont cités. Je veux dire, côté français, Jacques Lang, on va y venir, mais on trouve également Emmanuel Macron, le président, tout simplement pourquoi? Parce qu'à un moment, des gens qui étaient en liaison avec le financier ont évoqué son nom, ont parlé de lui. On trouve l'ancien ministre Bruno Le Maire.
Oui, vous parliez d'Emmanuel Macron, Emmanuel Macron qui n'a jamais échangé avec Jeffrey Epstein.
Non,
il est juste dans les mails, n'importe qui pourrait l'être.
Exactement, en tout cas pas qu'on sache. Il y a également un ancien conseiller diplomatique de Nicolas Sarkozy quand il était président de la République. On trouve la banquière Ariane de Rothschild. Enfin, on trouve vraiment énormément de monde. Et c'est vrai que là, le trouble, c'est qu'on ne sait pas du tout quel est le degré d'implication. qui peut être absolument nul. Il peut y avoir absolument aucune implication, aucune complicité, ni dans le domaine financier, ni dans le domaine sexuel. Donc c'est vraiment ça qui peut faire diversion. On a l'impression que dès que vous êtes dans l'élite, vous êtes touché à un degré ou à un autre.
Alors, on y reviendra, mais ça peut avoir un impact très important sur l'opinion et sur le fameux tous pourris.
Mais c'est dévastateur. C'est évidemment la meilleure accréditation possible dont pouvaient rêver les complotistes.
Ça touche les États-Unis, ça touche aussi la Grande-Bretagne.
Mais bien sûr, ouais, exactement.
Et
la France, l'exécutif. Bah, Keir Starmer, par exemple, aujourd'hui, il est sous accusation de ses propres amis travaillistes. Pourquoi ? Parce que l'un de ses proches, surtout l'une des figures historiques du Parti travailliste, Peter Mandelson, qui a été ministre, qui a été commissaire européen au commerce au début des années 2000, qui était encore tout récemment ambassadeur du Royaume-Uni à Washington, qui a dû démissionner à partir du moment où justement ces relations de proximité avec Epstein ont été révélées, Starmer, qui est quand même accusé d'avoir un petit peu couvert tout ça, c'est sous Starmer que Mandelson, alors que son nom figurait quand même déjà dans le scandale Epstein depuis un bout de temps, malgré tout, c'est Starmer qui a pris la décision de le nommer, de nommer Mandelson comme ambassadeur à Washington, et ça lui est beaucoup reproché, ce qui fait qu'aujourd'hui, le Premier ministre britannique lui-même, donc il est directement impacté et il est sous une certaine menace de la part de ses propres amis politiques.
En France, un homme est dans la tourmente, Jack Lang, qui est contraint de démissionner de la présidence de l'Institut du monde arabe. Il a présenté sa démission au Quai d'Orsay, qu'il a accepté. Le nom de Jack Lang qui apparaît plusieurs centaines de fois dans les fichiers relatifs à ce dossier. Le parquet national financier a annoncé l'ouverture d'une enquête contre lui, également contre sa fille, Caroline Lang. Que révèlent ces documents sur le plan financier concernant Jack Lang et sa fille Caroline Lang?
Vous avez raison de préciser, parce que c'est vraiment sur ce terrain-là que les liens apparaissent au vu de ces mails. Bon, ils révèlent quand même des choses très, très, très embarrassantes pour la famille Lang. Alors, au premier chef, pour sa fille, qui avait monté avec Jeffrey Epstein dans les années entre 2012 et 2019, une société offshore immatriculée aux îles Vierges américaines. Donc, ça veut dire avec évidemment des statuts de droit fiscal extrêmement privilégié, voire, est-ce que c'est frauduleux ou pas, ce sera justement à la justice de l'établir. Et cette société dont on ne comprend pas vraiment ni le fonctionnement ni la finalité, alors Caroline Lang a expliqué tout au long de la semaine qu'il s'agissait d'un fonds qui aurait permis d'acheter des œuvres pour promouvoir des jeunes artistes en devenir. Alors on sait que ça, c'est vrai que c'est la passion et l'occupation de la famille Lang depuis un certain temps, mais enfin, pourquoi ce système? Quelle est la véracité? Toujours est-il d'ailleurs que Caroline Lang elle-même a tout de suite pris la mesure de ces accusations, de ces soupçons, en démissionnant. Elle était responsable, elle était déléguée d'un syndicat de producteurs de cinéma.
Et souligner également qu'elle était dans le testament de Jeffrey Epstein.
Voilà, mais ça aussi, ça a beaucoup troublé. Elle apparaît bénéficiaire d'un legs de 5 millions de dollars. En plus, un testament qui a été établi quelques jours à peine avant la mort de Jeffrey Epstein en prison. Alors je dis mort parce qu'on dit toujours un suicide, mais là j'ai vu que ces derniers jours, c'est comme s'il y avait des interrogations a posteriori sur cette mort, c'est vrai, très opportune, en 2019. Éteignons d'ailleurs avec sa disparition bien des enquêtes, parce que ce qu'il faut souligner, c'est qu'aux États-Unis, il y a tout ce déballage, et maintenant depuis des années, c'est vrai que de part et d'autre, il n'y a pas vraiment d'enquête. Alors là, en effet, le parquet national financier français a ouvert une enquête.
Et alors Jack Lang, lui, parle de liens de cordialité. Je ne compte pas le nombre de fois où nous nous sommes vus. Je rencontre beaucoup de monde. Je suis attiré par l'inattendu. On ne peut pas projeter sur hier les crimes monstrueux commis ensuite. C'est dégueulasse, dit-il, de rayer ce qui s'est passé sous prétexte que quelqu'un est un criminel. Jack Lang, qui dit vouloir préserver l'Institut du monde arabe. On assiste aujourd'hui à la chute d'un homme qui a marqué la fin du XXe siècle. Hein. C'était une figure de la Mitterrandie. Jack Lang qui a été plusieurs fois ministre de la Culture, ministre de l'Éducation nationale. On parlait de lui d'ailleurs en tant que ministre de la Culture à vie. Il était difficile de lui succéder. Il a fait de l'ombre à beaucoup de personnalités qui lui ont succédé. On va revenir sur le parcours de Jack Lang avec un politologue, Philippe Moreau-Chevrolet. Il préside MCBG Conseil.
Jack Lang, c'est celui qui a réinventé le ministère de la Culture. Il y a eu deux grands titulaires du poste de ministre de la Culture. Il y a eu son inventeur, André Malraux, et puis il y a eu son réinventeur, en quelque sorte, Jack Lang. Il a été vraiment très dominant, bien au-delà d'ailleurs de son passage au gouvernement. Il a été une sorte de ministre de la Culture bis, qui faisait d'ailleurs de l'ombre au titulaire du poste après son départ du pouvoir. Il est resté comme étant la référence, d'abord parce qu'il a inventé, par exemple, la fête de la musique, donc des grands rendez-vous populaires qui ont vraiment bien marché, qui continuent à être aujourd'hui des grands moments de notre année politique et en l'occurrence musicale. Et puis c'est quelqu'un qui a véritablement créé une impulsion de la part de l'État très forte, y compris budgétaire, pour tous les projets culturels, qui a créé énormément d'institutions et qui a marqué au fond, presque, ça a presque été le double de Mitterrand dans le domaine de la culture. Donc quelque chose de très très fort, une emprise très forte sur ce secteur.
Et vous le dites, hein, il a été difficile de lui succéder au ministère de la Culture. On se souvient d'ailleurs de cet échange entre François Hollande, alors président de la République, et Fleur Pellerin. François Hollande qui dit à Fleur Pellerin, écoute, appelle Jack, il va te conseiller.
Oui, il est resté alors à gauche, mais pas seulement, il est vraiment resté celui qu'il faut voir pour comprendre la politique culturelle en France, la façon dont ça marche. C'est aussi beaucoup Jack Lang qui a créé cette espèce de système un peu d'un petit milieu finalement, qui a appris à se rassembler, à se regrouper de manière régulière autour de lui, autour du gouvernement. Donc il a développé une forte culture étatique dans le domaine de la culture. Tout est centralisé à Paris, tout est beaucoup orchestré autour du ministère et c'est de la culture. Et ça, c'est vraiment lui qui a fait de la rue de Valois un pouvoir centrale au fond dans le gouvernement, ce que c'était pas du tout au départ. Donc il a beaucoup poussé le budget culturel.